33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et notamment dans la région de Beni où la population est de nouveau en colère après les massacres de la semaine dernière, des massacres attribués aux rebelles ougandais de l'ADF. Entre mardi et jeudi, plus de 70 civils ont été tués, la plupart à coups de machettes et de haches, et la colère des habitants est d'autant plus grande qu'il y a 3 semaines, les forces armées congolaises affirmait, je cite, avoir décapité la bête après la reconquête de plusieurs bastions rebelles et notamment la reconquête de Madina, considérée comme le QG des ADF. Le porte-parole de l'armée assurait à l'époque que les rebelles n'avaient plus aucune possibilité de résister. Nous allons les écraser de manière définitive, avait-il affirmé. Seulement voilà, après une certaine accalmie, les tueries ont donc repris. Alors pourquoi les violences continue-t-elle à Beni? L'armée congolaise a-t-elle crié victoire trop tôt? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions sur la page Facebook et sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Évidemment, j'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, pour commencer ce débat, Didier est avec nous. Il nous appelle de Goma. Bonjour Didier.
Bonjour Anne Gomez.
Vous disiez au Standard que malgré les beaux discours de l'armée, rien ne change comme d'habitude.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et franchement, même jusqu'à maintenant là, je suis de ceux-là qui demeurent sceptiques par rapport à ces opérations qui sont menées dans le territoire de Beni. Pourquoi je dis cela? Tenez, dans un petit territoire comme celui de Beni, ouais, on y déploie 21 000 militaires. Alors, moi, j'estime qu'il n'y a pas du sérieux. Et s'il y avait du sérieux, on devrait commencer par cloisonner d'abord. Parce qu'on connaît les modus operandi de ces soi-disant ADF. Alors, il fallait cloisonner le territoire de Beni, de façon d'abord à éviter qu'il y ait le phénomène contagion, okay, qui ne puisse pas contaminer, se déverser dans d'autres provinces, vous voyez. Et quand il n'y a pas ça, moi, je me dis qu'il y a du doute. Il y a de quoi douter.
C'est-à-dire, attendez, vous dites qu'il y a des doutes. Quels sont vos doutes, Didier? Des doutes sur la volonté réelle du gouvernement ou de l'armée à éradiquer ces rebelles qui sévissent dans cette région de votre pays depuis une quinzaine d'années?
Permettez, le doute que j'ai, il est alimenté par le fait que, vous voyez, nous avons l'armée qui est déployée dans le territoire de Beni. Vous avez tous les commandants, la quasi-totalité des commandants qui assurent ces opérations-là, ce sont des affairistes. Ils sont dans le business. Ils sont animés par un esprit que moi je qualifie de cynique, ok? Et ils voudraient garder le territoire dans cet état-là d'insécurité parce que ça leur profite.
Donc il y a pour vous, Didier, connivence entre certains hauts gradés de l'armée et les groupes rebelles, et en l'occurrence les rebelles ougandais des ADF.
Ouais, c'est exact.
C'est exact. Vous n'êtes pas le seul à affirmer, à tenir de tels propos. J'ai sous les yeux le commentaire de Bonhomme, qui affirme que les guerres interminables à l'est de mon pays sont hautement politisées. Jour et nuit, nous dit cet auditeur, il y a des tueries, et pourtant certaines autorités militaires ne cessent de passer dans les différentes chaînes de radio et de télévision pour crier victoire. Hélas, cette guerre constitue une vache à lait pour enrichir certaines personnes. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Didier, reste avec nous. Je voudrais qu'on accueille José, qui est à Kinshasa, lui, dans la capitale. Bonjour José.
Bonjour Juan.
Pourquoi les violences continuent-elles à Beni, malgré les propos de l'armée il y a 3 semaines?
Il est vrai que notre armée a fait énormément d'efforts pour arrêter cette guerre, mettre en déroute les ADF, mais il ne faut pas oublier que l'appât du gain est très important dans la mesure où c'est plusieurs milliards, ce commerce illégal de minerais rapporte énormément d'argent, non seulement aux ADF, mais également aux populations qui deviennent de temps en temps complices de ce genre-là. Mais il ne faut pas oublier, Juan, qu'il y a 6 millions de morts à cause de cette guerre, et il ne faut pas occulter le fait que notre armée, il y a des infiltrés dedans. Ça, on ne peut pas occulter. Mais le problème le plus important, sur le fait que cette guerre est alimentée par ces entreprises qui viennent acheter le coltan de la guerre. Ils se sont installés dans des pays voisins qui sont complices de cette affaire. Et la communauté internationale regarde ça avec complaisance, et c'est comme ça que cette guerre ne peut pas s'arrêter. Le montant de ce commerce sont tellement importants que cette guerre ne peut pas s'arrêter tant que les entreprises, les multinationales, ont des filiales au Rwanda, en Ouganda et au Kenya, et ils achètent ce minerai et ça alimente. On ne va pas arrêter. Mmh. Plus d'ailleurs il y a la guerre, plus c'est intéressant pour eux.
Oui. Donc vous dites qu'il faut à la fois faire le ménage au sein de la chaîne de commandement de l'armée et en même temps exiger des multinationales installées dans votre pays, à l'Est, plus de transparence. Sinon, l'armée aura beau tenir tous les discours qu'elle voudra, la paix ne sera pas restaurée. C'est en substance ce que vous dites et ce que dit, j'ai sous les yeux le commentaire de Michael, qui pense que l'armée congolaise est infiltrée. Il dit exactement la même chose que vous, Didier. Elle est infiltrée. Voilà pourquoi, tant qu'il n'y aura pas de réforme au sein de l'armée, la guerre dans l'Est de la RDC ne prendra jamais fin. Didier, bonne journée à Goma. José, merci d'avoir appelé de Kinshasa. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. La situation dans l'Est est préoccupante, nous dit Josué, qui nous appelle du Kassai oriental. Bonjour Josué.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Je pense personnellement que nous devions être très optimistes quant au retour de la paix dans cette partie de l'Est, parce que nous avons en face de nous un président qui est animé par de bonnes intentions pour en finir avec ces massacres. Il faut les constater avec plus d'un déplacement dans cette région depuis qu'il est au pouvoir, Félix Tshisekedi, jusqu'à déclarer même qu'il est prêt au sacrifice suprême pour la cause. Donc on comprend que c'est très rassurant pour le peuple congolais.
Ouais. Vous faites référence à ces propos qu'il a tenus au mois d'octobre ou au mois de novembre, lorsqu'il a dit qu'il était prêt à mourir pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Hein.
Certainement.
C'était
certainement.
Ça, ouais.
C'est trop rassurant pour le peuple congolais. Et aussi le fait qu'il y ait doublement de l'effectif de FRDC de 11 000 à 21 000, c'était vraiment une belle option.
Oui, mais c'est une belle option, mais les résultats ne sont pas là, Josué, sur le terrain. Le président a beau tenir de tels discours, rassurant à vous entendre, Josué, on a beau augmenter le nombre de soldats déployés sur le terrain, il y a encore eu 70 personnes civiles massacrées la semaine dernière à Beni.
Alors voilà pourquoi je suis tenté de revenir à ce que mes prédécesseurs ont dit. Je crois que le président doit pouvoir envisager des solutions durables pour que ces massacres puissent prendre fin. Je crois également aussi à la mise à l'écart des officiers militaires sous sanctions internationales dans la chaîne de commandement. Je crois bien évidemment à cela. Et aussi, je pense qu'en plein 21e siècle, sachant que la sécurisation de l'Est de la RDC relève certes en premier lieu de la souveraineté nationale, notre État doit moderniser notre armée en lui dotant des matériels qui doivent être à la hauteur
bien sûr.
Des défis.
Mais encore faut-il avoir les moyens, et vous savez bien que la situation économique et financière du pays ne permet pas de répondre à toutes les attentes de la population, des attentes sécuritaires, vous en parliez à l'instant, Josué, sociales, économiques, tout est prioritaire, tout est urgent aujourd'hui en RDC, et voilà, les autorités ne peuvent pas répondre favorablement à toutes ces demandes, au regard de la situation, je dis bien, actuelle, situation économique. Josué, merci infiniment d'avoir appelé de Mbujimaï. Emery, bonjour.
Bonjour Rohan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous vous sentez désabusé, c'est ce que vous disiez au standard.
Ouais. Oui, Rohan, très désabusé parce que d'abord c'est une situation que les nouvelles régimes a hérité qui date de plus de 18 ans. Et ça s'est gangréné et le problème est persistant. Bien qu'on aille à multiplier le troupes de la FRDC, le problème continue parce qu'ils n'ont pas affaire avec une armée régulière. Ce sont des milices qui, par moments, s'infiltrent dans la population, comme mes prédécesseurs viennent d'évoquer. Mmh. Alors, je pense que déjà, le président de la République est animé d'une bonne volonté pour voir cette guerre la finir. Mais le vrai problème n'est pas touché parce que, comme l'ont dit les prédécesseurs, qu'il y a un problème des minerais qui est convoité par les pays environnants de la RDC et par des personnes, des tierces personnes. Il faut résoudre ces problèmes-là pour parvenir finalement à endiguer la guerre en RDC. Sinon, nous aurons toujours des formes des milices, des formes des agressions qui vont déboucher aux tueries que nous connaissons.
Donc, Emery, à vous entendre, la solution ne serait donc pas que militaire. Vous faites référence aux pays voisins. Il faudrait donc quoi? Une conférence sous-régionale, une conférence des Grands Lacs pour aborder ces questions?
Non, je pense que les Nations Unies doivent prendre à bras les corps ces sujets, puisque c'est à chaque jour que les populations congolaises se mêlent. Devant les silences qu'exprime la communauté internationale.
Mais il faut qu'il y ait une conférence. Emery, vous parlez des Nations Unies, elles sont présentes physiquement sur le terrain. Il y a quasiment 20 000 militaires et policiers des Nations Unies. La MONUSCO est sur le terrain.
Mais j'aimerais vous dire que cette MONUSCO-là a fait preuve des limitations, puisque, souvenez-vous, vers la fin de l'année passée, ils ont connu le problème. La population s'est soulevée lorsqu'il y a encore eu des tueries. Pourquoi ils ont fait plus de 18 ans, mais le problème persiste parce que le vrai problème n'est pas traité.
Oui.
D'un côté, ils sont en train de tirer les draps, l'armée, la FRDC tire les draps, la MONUSCO tire les draps, puisqu'il n'y a pas synergie entre ces deux forces militaires.
Oui.
Moi, je pense que le problème, il faut qu'il y ait une conférence qui va réunir les pays frontaliers et puis les Nations Unies pour traiter les problèmes à fond et puis terminer les problèmes congolais.
Oui, alors vous parliez de la MONUSCO. Boniface nous dit on a renouvelé le mandat de la MONUSCO croyant que cela permettrait de garantir la sécurité dans cette partie du pays. Mais voilà que les massacres se répètent. À quoi sert donc la présence de cette mission de l'ONU au Congo? Voilà pour le commentaire de Boniface. Emery, je vous interromps, je vous coupe la parole, je suis désolé, mais le temps passe très vite et beaucoup d'auditeurs souhaitent encore commenter cette actualité et ces derniers événements. À Béni, Steve, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors vous pointez également du doigt l'armée, les FARDC, mais aussi la MONUSCO.
Absolument, absolument. Je me rappelle que depuis 2010, par sa résolution 1925, la MONUSCO était autorisée à recourir à tout le moyen nécessaire pour protéger le civil, les personnels humanitaires, les défenseurs des droits de l'homme. Et par la résolution 2013 de mars 2014, la résolution 2098,
oui,
les conseils de sécurité créaient la brigade d'intervention spéciale à MONUSCO.
La brigade d'intervention rapide, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça?
Exactement.
Exactement, oui, oui. Et donc?
Ça s'appelait brigade d'intervention spécialisée.
Oui.
Ça, ce sont les termes du mandat de la résolution 2098.
D'accord.
Et avait pour responsabilité, justement, la neutralisation des groupes armés. Là, nous sommes en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2020.
Oui.
Qu'a fait, justement, cette brigade d'intervention spécialisée pour neutraliser les groupes armés et pour protéger le civil?
Ouais. Justement, je vous écoutais, je voyais où vous vouliez en venir. Steve, je recherchais dans mes notes un chiffre que j'ai retrouvé. C'était à la fin de l'année dernière. Le précédent auditeur en parlait à l'instant lorsque la population de Béni était très, 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 très en colère, très remontée. On se souvient de ces manifestations, la population scandant dans les rues de Béni. Soit vous nous protégez, soit vous dégagez. Eh bien, à ce moment-là, la MONUSCO a rappelé qu'il y a 2 ans, un tiers du territoire congolais était contrôlé par les forces, par les groupes armés. Aujourd'hui, moins de 10% seraient concernés. C'est-à-dire que, mine de rien, peut-être que vous ne le constatez pas, que ce n'est pas forcément visible, mais la MONUSCO récupère, évidemment en coopération avec l'armée, mais elle récupère quand même du terrain, elle gagne du terrain.
Oui, je suis curieux d'entendre par la MONUSCO quel terrain elle a récupéré exactement.
Oui.
Si elle dit que les milices ou les forces rebelles occupaient 1% du territoire, je suis curieux de savoir quel territoire la Monusco a récupéré. Oui.
Mais
et
vous...
ici, les cas qui nous préoccupent maintenant, c'est les tueries des Beni et les massacres des Beni.
Effectivement, je l'entends, Steve. On essaye, je vous cache pas qu'on essaye d'organiser un dialogue, une émission avec la représentante des Nations Unies en République démocratique du Congo pour un dialogue avec Leila Zerougui. Il faut que son agenda puisse correspondre avec les impératifs de notre émission qui est en direct le matin à 7h-ci. Mais voilà, je ne désespère pas de l'avoir un jour dans ce studio ou sinon en ligne de Kinshasa. Ça pour un dialogue franc et direct avec vous tous, qui vous interrogez effectivement régulièrement sur le rôle de la MONUSCO. John, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, Juan.
Pourquoi les violences continuent-elles à Beni?
C'est une question très difficile à répondre, Juan. Mais je pense qu'il y a, de l'hypocrisie à tous les niveaux dans cette situation qui s'est passée à Beni. L'hypocrisie, que ce soit au sein de l'armée, les FARDC, que ce soit également au sein de la population, dont les ressortissants même du territoire de Beni, et aussi dans toute la RDC, il y a un sentiment d'hypocrisie qui existe.
Ouais. Que reprochez-vous, John? Parce que, bon, depuis le début de l'émission, certains ciblent l'armée, d'autres ciblent la MONUSCO, d'autres ciblent les deux, d'autres ciblent le gouvernement. Vous citez notamment la population. Que reprochez-vous à certains, justement, à certains de ceux qui vivent dans le territoire de Beni?
Mais, Juan, beaucoup tirent les ficelles. Le fils et fille du terroir tirent les ficelles de cette guerre. Et selon les informations que nous détenons, parce que moi je suis à Goma, il y a certains qui cacheraient même des rebelles dans leurs parcelles. Donc, une fois l'armée arrive, ils ne sont plus là. Et si vous lisez tout le rapport, ou bien ceux qui vivent à Beni, et à tous, Beni fait combien de kilomètres carrés? L'armée nous a dit qu'il y avait 21 000 militaires dépêchés là-bas. L'état-major des FARDC est déplacé à Beni. Plus de 3 000 policiers et MONUSCO sur place, c'est 30 kilomètres carrés. Mais pourquoi on tue tout le jour? C'est plus de 50 morts en deux jours.
Le département de Beni, et merci Internet, le département de Beni, 213 564 kilomètres carrés, pour être précis.
Voilà. Alors,
donc vous dites avec le déploiement militaire, avec la présence des casques bleus, il y a moyen d'éradiquer ces rebelles ADF.
Il y a moyen d'éradiquer ces rebelles ADF, mais sauf qu'au sein même de l'armée, et ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a des rapports qui les précisent, qui citent même les noms. Pourquoi est-ce que la justice militaire n'intervient pas? Moi je suis de ceux qui pensent que la justice également peut résoudre le problème. Quand on cite des noms de hauts gradés de l'armée, pourquoi la justice n'interpelle même pas ces gens pour les écouter en titre d'information?
Oui. Effectivement. Alors, bon, vous posez une question, je n'ai pas la réponse, et malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. On aurait pu poser cette même question aux auditeurs qui patientent au standard, mais on vous rappellera tous, évidemment, dès qu'on reviendra sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Quelques commentaires tout de même, avant de nous quitter, des commentaires WhatsApp et Facebook. Daniel, il est à Boutembo, il nous dit, si l'État n'est pas en mesure de sécuriser la population, qu'il nous autorise à porter des armes afin que chaque Congolais puisse être en mesure de se sécuriser tout seul, nous dit Daniel. Abel, les ADF sont soutenus par les multinationales en complicité avec les pays voisins et quelques compatriotes congolais qui ne visent et ne cherchent qu'à semer le désordre et exploiter illégalement nos ressources naturelles. Le débat se poursuit évidemment sur la page Facebook de l'émission. Demain, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations. Êtes-vous pour ou contre l'organisation de la CAN tous les 4 ans au lieu de tous les 12 ans, les 2 ans? C'est en tout cas ce que suggère le président de la FIFA. Et la question, évidemment, fait d'ores et déjà débat. Elle sourit en m'écoutant quand je trébuche sur quelques mots. Caroline Paré, bonjour.
Bonjour, Juan.
C'est le lundi, c'est un peu comme ça, on met du temps à démarrer. Gros plan, en tout cas, ce matin, sur l'épidémie de coronavirus.
Oui, on va revenir sur l'épidémie de pneumonie virale qui a fait à ce jour 362 morts, 17 200 contaminations. Davantage de victimes donc que l'épidémie de SRAS de 2002. On va poser à nos invités infectiologues, épidémiologiques, responsables de l'OMS toutes vos questions, vous auditeurs. Questions très nombreuses sur la page Facebook de Priorité Santé, transmission, symptômes, incubation, traitement. On en parle dans 10 minutes.
Juste après le journal.